Bonsoir. Serein, se disait-il ce matin à l'entrée, silence radio à la sortie. Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. Le garde des Sceaux mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Ses avocats contestent et pas question de démission. Le gouvernement soutient son ministre. La terre éventrée, des tonnes de boue, des maisons entières englouties. Énorme glissement de terrain près de Cologne en Allemagne où les inondations dans le pays ont fait plus d'une centaine de morts. Des dizaines de disparus, peut-être un millier. Nous sommes sur place dans un instant. Et puis la Belgique, 20 morts, autant de disparus, le deuil national décrété pour mardi prochain. Reportage à Liège dans ce journal. Sortez couverts cet été dans les Pyrénées-Orientales, retour du masque dans l'espace public, le taux d'incidence s'affole. Et puis la messe en latin, point trônant faux, dit le pape, une claque aux traditionalistes. Cannes, dernier film avant la palme, et le Tour de France à Libourne ce soir. Pogacar, décrotable en jaune. Le vélo, mais aussi la voiture ou la trottinette sur les routes, comment partager sans se marcher dessus, c'est le sujet ce soir du téléphone sonne.
Exactement, on va parler de la jungle urbaine entre les vélos, les trottinettes, vous l'avez dit, les autos, les motos, le reste. Le partage de la voie publique devient franchement problématique par endroit. On parlera aussi de la sécurité sur les routes à l'heure des grands départs en vacances. Alors n'hésitez pas, le numéro est toujours le même, 01 45 24 7000.
France Inter. C'est une première dans notre histoire. Un ministre de la Justice mis en examen, Éric Dupond-Moretti, interrogé par la Cour de justice de la République pendant près de 6 heures, soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes d'ancien avocat. Le garde des Sceaux en est ressorti cet après-midi, mis en examen donc pour prise illégale d'intérêt. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Hélène.
Une rude journée, disons, pour Éric Dupond-Moretti.
Oui, il est arrivé peu avant 9 heures dans les locaux de la CJR près des Invalides, affichant un grand sourire.
Serein, mais particulièrement déterminé. Le ministre de la Justice, il n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas non plus en dessous. Je vous souhaite une excellente journée.
6 heures plus tard, sans un mot, le garde des Sceaux s'engouffre dans une voiture. Peut-être espérait-il convaincre les magistrats de ne pas le mettre en examen. Mais pour son avocat Christophe Ingrin, cette issue n'est pas une surprise.
Tous les signes que nous avions, le rejet de la totalité de nos demandes, le déroulement de la procédure, l'accélération de la procédure ces dernières semaines, tout nous laissait penser que, évidemment, la décision était prise et que Éric Dupond-Moretti allait être mis en examen.
L'enquête a été ouverte en janvier dernier après les plaintes de 3 syndicats de magistrats et de l'association Anticor. Le soupçon porte sur 2 affaires. Éric Dupond-Moretti avait diligenté une enquête administrative contre 3 magistrats du parquet national financier. Ils avaient fait éplucher ses relevés téléphoniques comme ceux d'autres avocats pour trouver la taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy de sa mise sur écoute dans l'affaire Bismuth. Dans le deuxième dossier, il est reproché au ministre d'avoir ordonné des poursuites administratives contre un juge détaché à Monaco, avec qui, là aussi, il avait eu maille à partir. Éric Dupond-Moretti, lui, conteste tout mélange des genres. Il affirme avoir suivi les recommandations de ses services.
Corinne Audouin et ses avocats ont déjà prévenu qu'ils allaient déposer une requête en nullité. Alors, pour certains, un ministre mis en examen, qui plus est ministre de la Justice, ne peut pas rester en fonction. C'est le cas de l'association Anticor que Corinne vient de citer. On se souvient aussi de la promesse d'exemplarité du candidat Macron en 2017, un ministre mis en examen devait démissionner, disait-il. Pourtant, il n'aura pas fallu plus de quelques minutes avant le communiqué cet après-midi du Premier ministre. Jean Castex renouvelle toute sa confiance à Éric Dupond-Moretti et lui demande de poursuivre son action. L'exécutif, donc, comme un seul homme, fait bloc ce soir, Yael Gauz.
Oui, à ceux qui spéculent, le couple exécutif oppose depuis mardi déjà un soutien clair et a réaffirmé Emmanuel Macron. La justice est une autorité et ne doit pas devenir un pouvoir. Encore Emmanuel Macron, hier soir en off dans les Pyrénées, le garde des Sceaux a les mêmes droits que n'importe quel justiciable. Le soutien le plus explicite et public, vous l'avez dit, c'est celui de Jean Castex. Action qui doit se poursuivre, confiance renouvelée. Et le Premier ministre va plus loin dans la défense. Un, le ministre, en ouvrant ces 2 enquêtes, a agi sur un plan purement administratif. 2, un décret a déjà été pris qui déporte le garde des Sceaux. Ou comment minimiser la charge symbolique d'une mise en examen? Il n'a rien volé, il n'y a pas d'emploi fictif ou de caisse noire, s'agace un conseiller. D'ailleurs, Éric Dupond-Moretti peut compter sur des soutiens hétéroclites. Soutient plutôt Clémence. Au RN, l'ex-magistrat Jean-Paul Garot ou l'avocat Gilbert Collard. Chez LR, Éric Ciotti, Gérard Larcher n'appellent pas à la démission du ministre. Désormais, il va falloir continuer à exercer la fonction en ayant ce sparadrap collé à la peau. Pas simple, dans ces conditions, de retrouver du crédit politique et une légitimité sur ses administrés. Défendre son ministre et non l'inverse à l'approche de la présidentielle. Emmanuel Macron espérait sans doute une situation plus confortable pour sa recrue surprise de l'été 2020.
Yael Gauss, chef du service politique de France Inter.
La pluie et les crues tragiques, plus d'une centaine de morts en Allemagne et toujours des dizaines de disparus.
En Rhénanie-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat, à l'ouest de l'Allemagne, parmi les États les plus peuplés, une image saisissante dans le chaos. Ce cratère de 15-20 mètres de profondeur, le bitume et les maisons englouties dans un torrent de boue. Énorme glissement de terrain à Erstadt-Blessem, près de Cologne, là où vous vous trouvez, Sébastien Baer. Une commune, Sébastien, ce soir entre l'effondrement et l'effroi, d'autant qu'il y a encore plusieurs disparus.
Oui, c'est ce que redoute la communauté de communes de Cologne, la mort de sinistrés qui avaient été évacués et qui seraient retournés chez eux sans attendre le feu vert des autorités, emportés par cette coulée de boue, par les eaux qui ont creusé ce gigantesque cratère. Plus largement, c'est vrai, l'Allemagne recherche toujours ses disparus par dizaines. Le chiffre affolant, vertigineux, de 1300 personnes a même été avancé, mais il est très certainement surévalué à cause des pannes du réseau téléphonique qui empêchent de prendre ce soir encore parfois des nouvelles décisions. Pour ceux qui recherchent des proches, l'angoisse monte au fur et à mesure que le temps passe. À Euskirchen, près de Cologne, Anna, 22 ans, est sans nouvelles de son frère et de sa grand-mère, 36 heures après le déluge. Comme à d'autres, la police lui a demandé des photos, des vidéos pour aider les secouristes dans leurs recherches. Heure après heure, le nombre de disparus diminue, mais bien souvent, cette baisse vient gonfler la liste des victimes, car les secouristes retrouvent régulièrement des corps sans vie dans les caves et dans les sous-sols, ou bien des automobilistes piégés dans leur voiture par la brutale montée des eaux. Quoi qu'il en soit, avec un bilan qui dépasse déjà les 100 morts, l'Allemagne fait face à la pire catastrophe depuis la guerre.
L'envoyé spécial de France Inter, Sébastien Baer, à Erstadt-Blessem, à une quarantaine de kilomètres de Cologne. L'apocalypse en quelques minutes dans certains villages, aujourd'hui en ruine, maisons éventrées, ponts et routes effondrées, même désolation chez la voisine, la Belgique. 20 morts, autant de disparus. La Meuse et ses affluents débordés en Wallonie, les communes de Verviers et Pépinster ont recensé à elles seules au moins une dizaine de morts. La province de Liège reste la plus touchée. 48 heures de torrents de pluie qui ont enfin cessé. La décrue s'amorce, mais plusieurs quartiers sont toujours inondés. Angélique Boin s'est rendue dans un centre d'accueil improvisé sur les hauteurs de la ville.
Leurs visages sont fatigués. Elisabeth et sa fille d'une vingtaine d'années portent chacune un grand sac à dos, des cirés tout boueux et des chaussures en plastique avec lesquelles elles ont grimpé dans le canoë des pompiers. À l'accueil, elles donnent leur identité, puis sa table. Ici, on offre de quoi manger, se laver, se reposer, s'habiller et un relogement. Les deux femmes viennent de vivre 48 heures éprouvantes, coincées depuis mercredi soir au deuxième étage de leur maison. Elisabeth, la maman, n'en revient pas d'avoir pu sauver ses deux petits chiens. Elle n'a quasiment rien pris d'autre.
Juste deux culottes et une robe. Et j'avais mis les chiens dedans, c'est tout ce que j'ai eu le temps de prendre.
Vous avez mis les chiens dans votre sac à dos?
Oui, parce qu'ils ont peur de l'eau. Mais voilà, on essaye d'en rire, mais c'est vraiment impressionnant et c'est très très difficile. Mais le principal, c'est qu'on est en vie, quoi, voilà.
C'est sa fille Magali qui, dès mercredi, a eu l'idée de monter du rez-de-chaussée, de quoi tenir.
Dans ma tête, voilà, c'était d'abord les animaux, la nourriture et à boire. Et puis après, dès qu'on a eu le temps, on a monté tous les meubles au premier. Puis après, on nous a annoncé que peut-être le premier étage allait toucher. On a tout remonté au deuxième. Et donc voilà notre organisation et on est resté au deuxième et attendre.
Attendre en s'organisant avec les voisins d'à côté, on a partagé la nourriture, raconte-t-elle. Elisabeth et Magali n'iront pas dans l'un des hôtels réquisitionnés. Une fois remises et reposées, elles ont choisi d'aller vivre chez des proches. Le transport leur est proposé. Liège, Angélique Boin, France Inter.
Et la Belgique a décrété une journée de deuil national mardi prochain, 20 juillet. La France est solidaire, a dit cet après-midi Emmanuel Macron, le chef de l'État qui était à Bagnères-de-Bigorre en visite dans une usine ce matin et à Lourdes cet après-midi. Premier président de la République à visiter le sanctuaire. Enfin, les crues aussi dans l'est de la France. 8 départements en vigilance orange ce soir. Météo à la fin de ce journal.
19h09 sur France Inter, la suite du journal d'Hélène Roussel avec le variant Delta majoritaire dans presque toute la France et les cas de Covid qui se multiplient.
D'après les chiffres de l'Agence régionale de santé, ce soir, le taux d'incidence passe le cap des 100 cas pour 100 000 habitants à Paris, contre 40 pour la moyenne nationale et plus de 200 dans les Pyrénées-Orientales. C'est le département en écarlate sur la carte. Pas encore de couvre-feu ou de fermeture à 23h comme à Balagne en Haute-Corse, mais le scénario se profile. Notre liberté cet été sera conditionnée. Ça commence donc du côté de Perpignan, avec dès demain le retour du masque dans l'espace public, sauf sur la plage. Les touristes dans l'ensemble
résignée à Argelès-sur-Mer.
Pour moi, c'est inquiétant de le remettre. Bon, on fera avec. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix.
Il faut déjà se contenter de ce qu'on a actuellement. Donc, s'il faut faire l'effort de mettre le masque pour pouvoir continuer d'en profiter, il faudra faire avec.
Sur la plage, on a l'autorisation de ne pas le mettre. Donc, tout va bien. Après, le reste, bah, c'est pas grave. Hein. C'est comme ça. On a l'habitude. Donc, aucun problème pour remettre le masque. C'est même plus prudent, je trouve. Il n'y en a pas assez ici.
C'est une question de sécurité. Et puis, il faut que les gens fassent aussi attention. Et c'est du civisme un petit peu. Donc, non, si tout le monde met le masque, je pense que tout le monde va se sentir en sécurité. Et puis les gens vont pouvoir se promener après sans problème. Mais il faut le mettre, c'est obligatoire. Quoi. De toute façon, nous, on faisait déjà attention chez nous, donc on fait attention ici. Donc nous, ça ne nous pose pas de problème.
Réaction recueillie par François-David, France Bleu Roussillon. Une quatrième vague qui semble donc impossible à éviter. Un espoir que la vaccination limite les conséquences à l'hôpital. Près de 880 000 injections aujourd'hui. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à vous faire vacciner, écrit Olivier Véran sur son compte Twitter. Par ailleurs, deux avis de la Haute Autorité de Santé ont été publiés aujourd'hui. Un premier pour dire qu'il n'y a pas assez de recul pour imposer une troisième dose à toute la population. Nécessaire en revanche pour les plus fragiles et les plus âgés. Un deuxième avis, cette fois, sur l'obligation vaccinale imposée aux soignants à partir du 15 septembre. Nécessaire, dit-elle. Véronique Julien.
Pour justifier cette obligation, la Haute Autorité de Santé retient d'abord que l'obligation n'est pas une première. En France, 11 vaccins sont déjà obligatoires pour les nourrissons et 4 le sont déjà pour les professionnels de santé. Ensuite, le contexte, une évolution préoccupante de l'épidémie, des vaccins qui sont efficaces, une couverture insuffisante des professionnels, enfin les risques encourus par les personnes vulnérables qu'ils côtoient, les plus âgés notamment. Partant de là, justement, la HAS pose la question et pourquoi pas rendre obligatoire aussi la vaccination des plus vulnérables ? Elle avance pour cela plusieurs chiffres. Sur la vaccination d'abord, près de 20% des plus de 80 ans n'ont encore reçu aucune dose. Mais aussi sur le risque. D'après une étude britannique, un octogénaire non vacciné a 12 fois plus de risques de mourir du Covid qu'un quinquagénaire et 180 fois plus de risques qu'un moins de 40 ans. Pourquoi pas donc obliger les plus âgés si leur taux de couverture vaccinale ne progresse pas ? Mais ce n'est pas tout. Pourquoi pas non plus l'obligation pour toute personne en contact avec le public ? La question de la population générale se posera aussi pour la HAS et méritera, dit-elle, d'être débattue selon l'évolution de l'épidémie.
L'obligation vaccinale pour les uns, le pass sanitaire pour tous, mesure disproportionnée, dénonce cet après-midi en Facebook Live le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon.
Dans une société où l'on contrôle tout le monde à tout bout de champ, à la discrétion de l'arbitraire de celui qui contrôle, eh bien, on a une société du conflit permanent. Et le conflit permanent vous poussera vous-même à être des agents du contrôle. Inviterez-vous des gens ? Vous leur demanderez s'ils ont un pass sanitaire pour éviter que, dans le cas où vous soyez tous contrôlés, vous soyez vous-même pris en défaut. Vous verrez qu'ici ou là, quelqu'un aura ou oublié son pass sanitaire, ou se trouvera dans une situation délicate, ou n'aura pas de vaccin, ou n'aura pas pu payer son test. Et alors, vous aurez des conflits à l'entrée d'à peu près tout. Du restaurant, du bistrot, du théâtre, de la gare. Ce n'est donc pas du tout une bonne méthode que celle qui a été utilisée. La liberté individuelle est toujours meilleure organisatrice de la vie en société que la contrainte et les contrôles.
L'avant-projet de loi sur l'extension du pass sanitaire doit être examiné lundi en Conseil des ministres et dans la foulée par les parlementaires.
Il faut un encadrement plus strict de la messe en latin, dixit le pape.
Trop excluant et trop d'abus, le pape François défait en quelques mots un décret de son prédécesseur Benoît XVI comme une claque aux catholiques traditionalistes. À Rome, correspondance Bruce de Galzin.
C'est un retour de bâton pour les traditionalistes. Après la main tendue de Benoît XVI en 2007 qui autorisait deux rites, l'ordinaire et l'extraordinaire avec la messe en latin, François reprend la main et n'en instaure plus qu'un, fini ou presque, la messe en latin. La raison ? Les traditionalistes ont exploité l'ouverture de Benoît XVI pour élargir les fossés, renforcer les divergences et encourager les désaccords, explique François. Selon le pape, les traditionalistes ont en fait continué à rejeter le Concile Vatican II en prétendant qu'il a trahi la tradition et la vraie Église. C'est infondé et insoutenable, dit François, qui se veut garant de l'unité et a donc décidé de n'autoriser qu'au compte-gouttes la messe en latin. Désormais, c'est même l'évêque qui donnera son autorisation et choisira le prêtre. Sauf pour les nouveaux prêtres qui, eux, devront avoir l'autorisation du Saint-Siège. Et même pour les quelques messes en latin encore autorisées, il sera interdit de lire les lectures en latin. Ce sera en français ou dans la langue locale. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Plus que deux petits films et le rideau sur l'écran va tomber. Le Festival de Cannes touche à sa fin. Bientôt, le jury de Spike Lee va se retirer pour délibérer. Dernière séance donc ce soir avec le Belge Joachim Lafosse. Son film s'appelle Les Intranquilles avec Laila Bekti et Damien Bonnard. Le drame d'un artiste peintre bipolaire inspiré de l'expérience personnelle du réalisateur.
Tu me fais pas confiance en fait.
Ah non, non, je te fais pas confiance. Tu l'avales devant moi.
Donc tu me crois pas?
Non, je te crois pas.
Et du coup, tu me crois pas, mais moi, je te crois pas non plus.
C'est pas drôle.
Si, c'est drôle. Mais t'es drôle, t'as ri. Regarde, tu ris.
Je m'en fuir.
Tu ris.
Tu ne penses qu'à toi. Je m'en fuir.
Ce film a été inspiré par mon père. J'ai vécu avec un père maniaco-dépressif qui a été à l'hôpital, qui est hospitalisé. J'ai fini par raconter, mais il a fallu du temps. Et il a fallu des acteurs qui m'aident à m'éloigner du réel aussi. Damien, il a montré que ce personnage était multiple, qu'il était vaste. On a envie de l'aimer, certainement pas parce qu'il est un être bipolaire. C'est pour toutes les autres choses qu'il nous montre. Il est peintre, il est un amant, il est un père magnifique. Il est. Donc, j'ai pas du tout voulu faire un film qui dit, voilà, la bipolarité, c'est classé, c'est rangé, il n'y a rien moyen de faire avec les bipolaires, c'est de toute façon pénible et invivable. Arrêtons de rester coincés sur les symptômes et de figer les gens dans un diagnostic.
Joachim Lafosse au micro de Corinne Pellissier, Les Intranquilles, dernier film de la compétition à Cannes. Du tapis rouge au maillot jaune, on file sur la route du Tour. Les coureurs ont quitté les Pyrénées, c'est la remontée vers Paris, 207 km aujourd'hui entre Mourinx et Libourne, et caramba, Cavendish, encore raté, une épreuve en pleine, idéale pour les sprinteurs. Mais c'est un Slovène qui est arrivé premier, Nicolas Peyronnet, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Un Slovène qui n'est pas en jaune, qui ne s'appelle pas Pogacar, mais Matej Mohoric, je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs.
Parfaitement bien, effectivement, après les Pyrénées, on attendait le retour des sprinteurs sur le plat, et on voyait déjà le tableau, hein, le record de Mark Cavendish, vous l'avez dit, tout semblait écrit ce matin. D'ailleurs, même l'accolade au départ entre le Britannique et Eddy Merckx, les deux hommes aux 34 victoires. Eh bien non, le CAF devra attendre les Champs-Élysées. C'est un homme seul qui s'impose à Libourne. Matej Mohoric, le plus fort d'une échappée à 6, puis à 20 entre les pins, entre les vignes, sur ces lignes droites interminables des Landes, échappée double qui a tenu en respect le peloton, au sein de laquelle hein, plusieurs Français forcément déçus, comme Élie Gébert, Julien Bernard, Anthony Turgis, Christophe Laporte, ou encore Franck Bonamour, encore lui.
J'ai tout mis, je voulais vraiment encore aujourd'hui passer la journée devant. On n'a jamais pu trop gérer, on a tout fait à bloc. Et voilà, Mohoric était vraiment au-dessus. Ouais, il était tout simplement au-dessus. Dans l'échappée, on voyait bien. Il passait deux fois plus vite que nous et deux fois plus longtemps. Donc, ouais, c'est plus fort qu'il gagne aujourd'hui.
Mohoric qui refait le coup du Creusot, là où il s'était déjà imposé, déjà en solitaire. C'était en première semaine.
Mais cette victoire-là, Nicolas, on va le dire, elle a un petit côté gênant.
Oui, en termes de timing, forcément, hein, deux jours après une perquisition dans l'hôtel de l'équipe de Mohoric, la Bahrain Victorious, dans le cadre, on le rappelle, d'une enquête pour dopage. Alors forcément, il fallait s'y attendre. Tadej Mohoric a répondu en passant la ligne d'arrivée, la main sur la bouche, sa manière à lui de faire taire les critiques et de s'adresser aux suspicieux.
J'ai pensé à ce qui nous est arrivé il y a deux jours quand les policiers sont venus à notre hôtel. Tout est ok puisque nous n'avons rien à cacher, donc c'est bien. D'un autre côté, c'est pas agréable de voir les policiers entrer dans ta chambre, fouiller tes affaires, regarder tes photos personnelles, les photos de ta famille, fouiller tes messages, ton téléphone. Et je l'ai un peu mal vécu, mais tout va bien désormais, j'espère.
Et on rappelle qu'il n'y a eu aucune interpellation pour l'instant dans cette enquête. Julien Jourdi, le directeur de l'équipe française AG2R Citroën.
J'ose espérer que Mohoric a gagné ses étapes avec honnêteté. Donc, moi, j'ai confiance en mes instances internationales qui font un gros travail dans la lutte antidopage. Donc, j'ose espérer qu'il n'y aura pas d'affaire Bahrain.
Alors l'autre Slovène, Tadej Pogacar, lui a passé finalement une journée tranquille au sein du peloton qui a franchi la ligne avec plus de 20 minutes de retard. Il va gagner le Tour dimanche, ça ne fait plus de suspense. Mais pour ces Libournais rencontrés par Thomas Coignac de France Bleu Gironde, Hélène, vous qui aimez les prononciations, le vainqueur, bon, c'est pas l'essentiel sur le Tour.
C'était un étranger.
Mais d'accord.
Comment il s'appelle? Brocard.
C'est un truc genre Ogoba ou quelque chose comme ça.
Gacar là.
Ah, c'était pas mal.
Pogacar.
Tadej Pogacar. Il reste 2 jours pour réviser avant Paris.
Ah oui, ça va, on révise déjà depuis quelques temps. Hein. Pogacar, on connaît bien. Nicolas Perronnet sur la route du Tour de France, merci à vous. Et sur la route tout court, vigilance si vous êtes au volant dans le sud. Un incendie actuellement en cours à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, au bord de l'autoroute A55. Plus de 300 pompiers mobilisés, l'autoroute coupée en direction de Marseille et il y a déjà des bouchons.
Et vigilance, de toute façon, qu'il y ait des bouchons ou qu'il n'y en ait pas. On va en parler dans un instant. Merci beaucoup, Hélène Roussel.